Sir Gerald Weston. Ayez du courage. Si je devais faire un sondage auprès de passants dans la rue, je suis convaincu que la plupart d'entre eux, mis à part quelques rares exceptions, ne tiennent pas à mourir. Et je crois qu'il en est de même en ce qui vous concerne. Tous, nous voulons vivre. Et, bien que l'on dise parfois qu'on ne tient pas à vivre pour toujours dans la chair, personne ne veut mourir. C'est là un paradoxe. Cela signifie que, fondamentalement, on aspire à la vie éternelle. Or, c'est précisément ce que Dieu nous offre. À la base, ce concept est merveilleux. Dieu désire effectivement nous accorder la grâce de vivre éternellement dans son royaume. C'est ce que vous et moi nous espérons. Cependant, Apocalypse 21, verset 8 nous dit que « tous ne seront pas admis dans le royaume de Dieu ». Parmi ceux qui en seront exclus, il y aura notamment les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, terme qui vient du grec pharmakeia et qui peut se référer à ces drogues récréatives qui sont en usage dans notre monde contemporain. Puis on mentionne les idolâtres et tous les menteurs. La fin du verset ajoute que « tous ceux-ci iront dans l'étang ardent de feu et de soufre », ce qui est la seconde mort. Vous noterez que j'ai omis de nommer une catégorie de personnes que Jean mentionne dans ce verset, les lâches. Ainsi, les lâches, ceux qui manquent de courage, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Cela dit, certains vont s'exclamer « Mais voyons, ne va-t-il pas parfois nous arriver d'avoir des craintes ? Dieu va-t-il donc exclure des gens à qui il arrivera d'avoir peur ?» Comprenez bien qu'il n'est pas ici question d'avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui vont parfois manifester de la crainte. Ainsi, Moïse fut saisi de crainte lorsque, au mont Sinaï, la terre se mit à trembler, tandis que le son des trompettes devenait de plus en plus fort et qu'un impressionnant spectacle pyrotechnique se déroulait au-dessus de leur tête. Cependant, on ne peut pas dire de Moïse qu'il était un lâche. Il n'était pas craintif au point d'avoir peur d'agir. L'inverse de la lâcheté, c'est le courage. Le fait d'agir, même si l'on est peut-être craintif. On surmonte sa peur en faisant ce qui doit être fait. Et il est indéniable, selon les Écritures, que Dieu aime autant les courageux qu'il hait les lâches. Dieu est amour, certes. Dieu aime tous les êtres humains. Mais n'est-il pas dit que Dieu a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü? Par cela, il faut évidemment comprendre que Dieu aimait moins Ésaü que Jacob. Donc, ce à quoi je veux en venir, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons des lâches. Il veut, au contraire, que nous fassions preuve de courage. C'est le sujet de mon sermon. Soyez courageux. Nous verrons aussi que nous avons tous besoin de courage pour pouvoir vivre dans notre monde pervers. Je crois que nous allons au-devant d'une époque où il nous faudra tous manifester du courage à un point que nous n'aurions jamais imaginé. Il est facile de se laisser convaincre qu'il nous faudra parfois affronter des difficultés. Mais lorsque celles-ci vont nous submerger, il nous faudra du courage pour les surmonter. Il nous faut exercer du courage quotidiennement. Ainsi, lorsque nous devrons nous absenter du travail et que notre patron nous dira « Vous perdrez votre place si vous refusez de venir travailler ce jour-là », cela nous obligera à faire preuve de courage. Nous devons manifester du courage à bien des occasions. Mais je crois que nous nous approchons d'une époque où le monde aura tellement changé qu'il nous sera difficile de relever tous les défis qu'il nous lancera. Il nous faudra alors certainement faire preuve d'un courage que la plupart d'entre nous n'auront jamais eu à manifester jusqu'à présent. Examinons à présent quelques paraboles qui nous sont probablement bien familières. Pour commencer, voyons Luc 19, verset 20, la parabole au sujet des mines. Il y a celui qui en avait reçu 10, et puis il y a celui qui en avait reçu 5. Mais penchons-nous sur celui qui n'en avait reçu qu'une. Luc 19, verset 20. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. » Notez l'expression, « car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. » Évidemment, ceci n'est qu'une parabole. ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu. Cependant, la leçon qu'on en tire, c'est qu'il y a ceux qui ont peur d'agir. Ils restent assis sur leur mine, le don qu'ils ont reçu. Ou encore, ils ne profitent pas de ce qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils le gardent dans un linge. Ils ont peur de Dieu, parce qu'ils le considèrent comme étant un homme sévère. Car, vont-ils ajouter, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Verset 22. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Ainsi, lorsque quelqu'un a peur au point de ne pas agir, cela constitue un problème. Le problème n'est pas le fait d'avoir peur. C'est quand cette peur nous paralyse au point de ne plus accomplir la mission qui nous a été confiée. Donc il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. On n'associe pas toujours un tel comportement au fait de manquer de courage, mais c'est bien de cela dont il s'agit ici. L'homme avoue que c'est en raison de sa peur qu'il n'a pas fait fructifier sa mine. Voyez-vous, Dieu nous accorde tous des occasions de le servir, de croître et de développer un caractère juste et saint, et il s'attend à ce que nous en fassions bon usage. Mais si nous restons là à ne rien faire parce que nous avons peur de commettre une erreur, ou tout simplement parce que nous sommes paresseux, il n'est pas content. Dans Matthieu 25, nous trouvons une parabole quelque peu similaire. Là encore, nous ne lirons pas tout. Contentons-nous d'aller directement à l'endroit qui parle de cet individu qui refuse de faire ce qu'on attend de lui. Commençons au verset 24. Matthieu 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Lui aussi avait peur. Là n'était pas le problème, mais c'est le fait de n'avoir rien accompli à cause de sa peur qui était le problème. D'autres avaient peur, eux aussi, mais ils ont néanmoins accompli quelque chose. Mais lui, à cause de sa peur, voyez sa réaction. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. L'individu avait précieusement conservé ce qui lui avait été confié, pensant avoir ainsi accompli ce qui était attendu de lui, à savoir de conserver intact ce qu'on lui avait remis. C'est pourquoi, au retour de son maître, il est tout heureux de lui dire, voici, prends ce qui est à toi. Mais voyons la réaction de son maître. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Là encore, il allait se faire enlever son talent, lequel serait alors donné à quelqu'un d'autre. Si vous étudiez attentivement ces deux paraboles, vous verrez que le préambule qui mène à elles est quelque peu différent, mais la leçon qui se dégage de chacune d'elles est la même. Celui qui reste assis sur sa mine, ou son talent, parce qu'il a peur d'agir, va se faire ôter ce qu'il a reçu et sera rejeté. Encore une fois, il s'agissait ici de paraboles. Mais voyons à présent un exemple tiré de la vie d'un individu qui a réellement existé, un individu qui a succombé à sa peur, alors qu'il faisait face à une situation qu'il n'aurait pas dû craindre, comme étant ainsi une grave erreur. Pour cela, tournons-nous vers Exode chapitre 32, où nous débuterons au verset 1. Exode chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Comme on peut s'en douter, ce récit ne fait pas état de tout ce qui s'est réellement passé. Vraisemblablement, le peuple ne s'est pas présenté devant Aaron pour lui dire, écoute, Aaron, fais-nous un Dieu que nous pouvons voir. un veau par exemple. Si on se met à lire entre les lignes, on devine qu'Aaron fut soumis à une pression intense. Ce n'est pas qu'il s'empressa aussitôt de satisfaire les caprices du peuple. Il a sûrement dû avoir des réticences à agir ainsi, mais, en fin de compte, il céda à leurs demandes et leur dit de lui apporter leurs anneaux d'or. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Lorsqu'on lit qu'ils se levèrent pour se divertir, il devait sûrement s'agir de comportements sensuels, en particulier ces danses auxquelles ils se livrèrent. Rendons-nous maintenant au verset 19. Moïse était donc redescendu de la montagne, et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Je sais, c'était de l'or. Mais Moïse n'attachait aucune importance à sa valeur. Il ne se contenta pas de le fondre pour le transformer en quelque chose d'autre. Non, il le détruisit. Il le fit disparaître. Verset 21. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Moïse se doutait bien qu'on avait exercé une pression intense sur Aaron pour qu'il en vienne à faire pareille chose. Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. » Effectivement, Moïse a dû être dans tous ses états à ce moment-là. On peut imaginer qu'Aaron fit alors de son mieux pour calmer Moïse, disant, « Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Verset 23. « Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Dans son fort intérieur, reprochait-il à Moïse d'avoir trop tardé à revenir au camp? Verset 24. « Je leur ai dit, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Entre nous, c'était là un énoncé plutôt ridicule. Cela montre notre tendance naturelle à vouloir nous justifier. Maintenant, il est indéniable qu'Aaron a dû subir une forte pression de la part du peuple. Il est possible que, de prime abord, il ait refusé de satisfaire leurs désirs. Mais, plus tard, lorsque la pression s'intensifia, il finit par acquiescer. Au lieu d'obéir à Dieu et de résister à la foule, il capitula tout simplement. N'est-ce pas ce que nous faisons nous aussi, à certains moments? Nous cédons à la pression. J'ai probablement parlé de cette anecdote auparavant, et si tel est le cas, je m'en excuse d'avance auprès de la gente féminine qui ne l'appréciera pas, car elle va se sentir visée. Si cela peut vous consoler un peu, notez qu'il y sera aussi question des hommes. Cette anecdote nous vient en fait du docteur Laura Schlesinger, qui parle régulièrement à la radio. À un moment donné, une personne l'appelle pour tenter de trouver une solution à un problème familial. En fin de compte, juste avant de raccrocher, on l'entend dire « Je tiens tout simplement à maintenir la paix au foyer. » À cela, docteur Laura réplique en disant « Maintenir la paix n'est pas votre responsabilité. Par contre, exercer le leadership, voilà quelle est votre responsabilité. » Puis elle ajouta, « Tant qu'il y aura une femme dans le décor, il n'y aura pas de paix. De fait, ni une capitulation sans condition, ni même la mort ne saurait la garantir. Je le sais, et c'est une femme qui vous le dit. » Désolé, mesdames, ces paroles ne sont pas de moi. Elles viennent d'une femme, de Dr Laura. Ce à quoi je veux en venir, c'est que Dr. Laura ne voulait pas seulement se montrer dure envers les femmes. Elle adressait en fait des reproches autant aux hommes qu'aux femmes. Son message aux hommes était: votre responsabilité ne se limite pas à maintenir la paix. Votre responsabilité est en tout premier lieu de faire preuve de leadership. Cela dit, pensez à Adam et Ève. Comment se fait-il qu'Adam, qui n'avait pourtant pas été séduit, ait tout de même mangé du fruit défendu? Je ne peux voir que deux raisons pour l'expliquer. Soit qu'elle fit appel à ses ruses féminines, ou parce qu'il était persuadé qu'il n'y aurait jamais la paix à la maison, à moins qu'il ne croque dedans. Il est possible également que les deux facteurs aient joué en la circonstance. Pourtant, Adam n'était pas dupe. Il savait, mais il se laissa néanmoins mener par le bout du nez. N'est-ce pas ce qui nous arrive aussi par moments? En tout cas, Aaron a dû succomber à cela lui aussi. Il voulait préserver la paix. Il ne voulait pas se mettre le peuple à dos. Il a peut-être à ce moment-là craint pour sa vie. Qui sait? Le peuple était venu vers lui en disant: ce Moïse est parti. Qu'allons-nous faire à présent? Aaron, comme bien d'autres, a alors simplement baissé les bras pour maintenir la paix. Les maris et les pères doivent faire preuve de courage pour exercer leur leadership. Les pères se doivent d'être en charge de leur famille. Cela ne veut pas dire jouer le rôle d'un dictateur. Cela ne veut pas dire réglementer chaque petit détail de ce qui se passera dans leur foyer. Certains ont tendance à agir ainsi parce qu'ils sont égoïstes et veulent que tout le monde se plie à leurs caprices. D'autres manquent d'assurance et craignent de perdre le contrôle de la situation. Alors ils contrôlent d'une manière excessive. Un des problèmes que nous avions jadis dans l'Église, ce n'est plus tant le cas de nos jours, c'est que les jeunes maris, lorsqu'ils avaient entendu leur ministre prêcher que l'homme se doit d'être le leader, s'empressaient alors d'imposer leurs quatre volontés à leur épouse, leur imposant même un horaire minutieux où figurait à quelle heure elles devaient se lever ou se coucher, et toutes sortes de détails à propos de leurs activités durant la journée. Cela n'est pas du leadership, c'est de la tyrannie. Nous ne voulons pas de cela dans l'Église. À l'inverse, nous ne devons pas pour autant nous résigner à tout accepter pour faire plaisir aux autres et pour maintenir la paix. Je ne dis pas qu'il faille déclencher des guerres, mais il n'en reste pas moins qu'il arrivera à l'occasion qu'on ait à recourir à des mesures impopulaires. C'est inévitable. Cela se produira immanquablement, et ce sera alors au père qu'il reviendra à prendre des décisions de ce type. Il est vrai cependant que, parfois, ce seront les femmes qui devront se résoudre à le faire, car leurs maris hésiteront à s'acquitter de leurs responsabilités. Il arrivera qu'on ait à dire non. Je me souviens d'avoir été en visite chez quelqu'un, et il arriva, à un moment donné, que sa fille lui demande la permission d'aller quelque part. Il m'impressionna alors par son refus de la laisser partir. Mais, vous savez, il est parfois nécessaire qu'un parent responsable refuse d'accorder certaines permissions à ses filles, voire même à ses fils, ne serait-ce que pour leur éviter des problèmes. Ainsi, il faut parfois avoir le courage de dire non, alors qu'il serait si facile de céder pour faire plaisir. En tant que ministre, il m'est arrivé plus d'une fois de me faire poser des questions du genre: Monsieur Weston, pensez-vous qu'il me serait permis de jouer dans un concert vendredi soir, alors que le sabbat aura déjà commencé? Je leur pose alors la question: Et vous, qu'en pensez-vous? Et la personne de me répondre: Personnellement, je pense que je ne devrais pas. On se rend compte, dans de telles situations, qu'on voulait simplement nous mettre à l'épreuve. On nous demandait en quelque sorte de leur accorder une dispense papale, comme si un oui de ma part pouvait absoudre celui qui commet le délit. La personne savait fort bien qu'elle ne devrait pas le faire. Quant à moi, il me serait si agréable de pouvoir donner mon accord. Cependant, il nous faut avoir des principes et parler selon la vérité, quand bien même on se ferait des mécontents. On peut user de tact en de telles circonstances. Mais de telles situations nous montrent simultanément combien il est important de connaître la vérité et de vivre en conséquence, sans avoir peur de ce que les gens pourraient penser de nous. Le problème que nous rencontrons, c'est qu'il y a des gens qui vont exercer un contrôle dictatorial, alors que d'autres vont faire preuve de lâcheté et agir comme des faibles. Pour ne pas arranger les choses, il nous est souvent difficile de voir dans quelle catégorie nous nous rangeons. J'ai remarqué que lorsqu'on aborde ce genre de sujet, la personne qui tient à vouloir exercer un contrôle abusif s'imaginera qu'elle devrait exercer encore plus de contrôle. Alors que, à l'inverse, celui qui tend à être faible et à manquer de leadership pensera qu'il a trop abusé et, partant, il s'enracinera encore plus dans son attitude. Après avoir donné un sermon, on se rend compte souvent, lorsqu'on parle aux gens, qu'ils interprètent nos paroles à l'envers. Ceux à qui on cherchait à faire comprendre qu'ils exerçaient un contrôle abusif vont croire qu'ils étaient trop mous, alors que ceux qui manquaient de leadership vont plutôt s'imaginer que leur comportement était trop dictatorial. En résumé, oui, il nous faut exercer du leadership, sans pour autant devenir un dictateur. Et cela va requérir du courage de notre part. Faire preuve de courage signifie qu'on sera prêt à prendre des décisions, même si celles-ci sont impopulaires, qu'on ne manquera pas d'assurance quand viendra le moment d'agir et qu'on aura le courage de dire non au besoin. Dans Esdras 10, nous rencontrons une situation intéressante. En fait, elle débute déjà au chapitre 9 et, en lisant le verset 2, on voit quel était le problème. Le peuple d'Israël, y compris leur chef, ne s'était point séparé des peuples qu'ils avaient conquis. Verset 2. Esdras 9, verset 2. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. C'est triste de voir que même les chefs du peuple avaient donné le mauvais exemple en cela. Puis, au chapitre 10 et au verset 1, il est dit, Esdras 10, verset 1. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Ces gens du peuple s'étaient rendus auprès de lui, conscients d'avoir transgressé les voies de Dieu. Cela ne faisait pas si longtemps qu'ils étaient sortis de captivité, et ils s'inquiétaient pour l'avenir de leur nation. Verset 2. Alors Shekania, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. » Ils étaient prêts à prendre une mesure draconienne, renvoyer et ses femmes et les enfants qu'ils en avaient eus. Une décision qui n'était pas simple. On avait commis une grave erreur et il leur fallait maintenant se résoudre à se séparer de leurs femmes et de leurs enfants. Une situation traumatisante pour un grand nombre d'entre eux. C'est une situation qui ne se pose pas à nous qui vivons à notre époque. Mais du temps de l'ancien Israël, particulièrement dans la tribu de Juda, c'était devenu un problème grave. La nation avait contracté des mariages avec des peuples étrangers parmi les pays qu'ils avaient conquis. Cela aurait conduit à la destruction de leur culture. Ils avaient violé les lois de Dieu qui interdisaient clairement de tels mariages. C'est pourquoi au verset 3 on lit « Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. » Et que l'on agisse d'après la loi. On voulait donc revenir à la loi de Dieu. Verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Ainsi, pour chacun d'entre nous, peu importe notre situation particulière, il viendra un temps où il nous faudra endosser nos responsabilités, et cela, que nous soyons un mari ou une mère. Ici, ce qui facilite les choses pour Esdras, c'est que le peuple se montre solidaire. De fait, il l'encourage, disant « Sois courageux, agis. » Effectivement, lorsque nous devons nous résoudre à prendre des mesures impopulaires et draconiennes, cela ne requiert-il pas du courage de notre part? Dans Actes 5, nous voyons les apôtres aux prises avec une décision plutôt pénible. Ne croyez pas qu'il en serait autrement pour nous si nous devions un jour faire face à une situation similaire. Voyons le verset 29. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On leur avait interdit de continuer à prêcher l'Évangile. C'est là un sort qui pourrait nous être réservé, à nous aussi, à moins qu'on ne nous coupe tout simplement l'accès aux médias. Bien sûr, et nous le savons, personne ne peut fermer une porte que Dieu nous a ouverte, à moins que Dieu n'y consente. Mais il ne faut pas non plus oublier que, de tout temps, Dieu a permis que son peuple subisse des persécutions. Or, tout porte à croire que le temps n'est pas si loin où nous pourrions être soumis nous aussi à de telles persécutions. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. En effet, le monde autour de nous change de manière radicale, et cela à un rythme accéléré. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 40 ans, je n'aurais pas pu comprendre comment l'Église pourrait devenir la cible de persécution. Certains auraient pu penser à l'époque que la persécution pourrait prendre la forme d'un ordre du genre « Mangez du porc ou sinon vous mourrez ». Cependant, de nos jours, le monde a changé. Aujourd'hui, on va nous ridiculiser pour nos croyances, voire même nous museler. Par exemple, récemment, plusieurs de nos émissions télévisées ont été censurées en Australie. Au Royaume-Uni, cela nous arrive régulièrement. Il est vrai que dernièrement, la situation s'est un peu améliorée. Mais jadis, une émission sur deux ou trois ne passait pas la censure. Dans le passé, ces mêmes émissions n'auraient pas été censurées. À présent, lorsque nous faisons un enregistrement, nous nous demandons toujours, va-t-il passer? C'est parce qu'ils doivent satisfaire aux nouveaux critères de rectitude politique. Ce n'est pas que leur contenu ne serait pas conforme à la vérité, il l'est. Mais le monde actuel n'a que faire de la vérité. Vous savez, nous vivons dans un monde qui a bien changé. Jetons nos regards sur un exemple typique de courage. Et je suis persuadé que nous n'aurions pas aimé être dans la peau de celui qui dut passer par là. Allons à Nombre, chapitre 13, et nous commencerons au verset 1. Il y sera question de ces espions qui furent envoyés dans la terre promise, pour qu'ils l'explorent et fassent un rapport de ce qu'ils auront vu. Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Puis on nous informe du nom de chacun d'eux. Plus loin, verset 16, il est dit: Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Notez ce qu'il ajoute ensuite. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Les voilà donc qui partent en mission. Verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, comme on le leur avait ordonné. Sautons à présent jusqu'au verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils disaient que c'était effectivement un bon pays, mais qu'il valait mieux ne pas le déranger. Parce que, disaient-ils, nous n'avons aucune chance de nous rendre maîtres des gens qui le peuplent. Après tout, que sommes-nous, sinon un ramassis d'anciens esclaves qui ont fui l'Égypte? Nous ne sommes pas des guerriers. Et voici qu'on attend de nous que nous nous emparions de cités fortifiées, entourées de murailles, des villes avec de larges populations exercées au combat, etc. C'est à ce moment-là que Caleb prend la parole pour dire, verset 30, « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Comprenez bien la situation. Nous avons ici 10 des espions qui tentent de décourager le peuple. Et puis voilà que Caleb se croit obligé d'intervenir pour calmer la situation. Et nous savons que Josué est derrière lui pour l'appuyer. Ces deux hommes s'adressent alors à la foule pour dire « Écoutez, ne vous laissez pas décourager par ces gens. Nous pouvons réussir. Nous les vaincrons. Dieu nous soutiendra. » Plus loin, dans Nombre, chapitre 14 et le verset 9, Josué et Caleb ajouteront même « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. » Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Mais poursuivons notre lecture dans Nombre 13. Nombre 13, verset 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent, devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Josué et Caleb avaient vu la même chose que les 10 autres espions. Eux aussi avaient vu ces géants qu'ils allaient devoir combattre. Mais contrairement aux autres, ils étaient disposés à s'emparer du pays et à les combattre. Ils étaient disposés à obéir aux ordres de Dieu et à placer leur confiance en lui. D'ailleurs, peu après, dès la prise de Jéricho, n'allaient-ils pas devenir témoins d'un miracle de Dieu pour que leur foi soit renforcée? Josué et Caleb avaient donc foi en Dieu, même s'ils ne pouvaient pas savoir comment Dieu allait s'y prendre pour leur permettre de conquérir le pays qu'il leur avait promis. Ils avaient aussi du courage. Savez-vous, Josué et Caleb avaient aussi dû faire preuve de courage pour braver la foule. En effet, alors qu'au début, ils n'avaient dû affronter que les 10 qui insistaient pour donner un rapport négatif, peu après, ils eurent aussi à tenir tête au peuple que ceux-ci avaient finalement réussi à soulever contre eux. Dans les tentes, les discussions allaient bon train. Et des gens commençaient à se plaindre et à vouloir retourner en Égypte. Eh bien, Josué et Caleb firent de leur mieux pour les convaincre que ce n'était pas une bonne idée. Imaginez un peu la situation. Même si Moïse et Aaron se tenaient maintenant à leur côté, Josué et Caleb devaient faire face à 2 ou 3 millions de personnes tout en furie contre eux. Poursuivons dans Nombre chapitre 14. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? » N'est-il pas intéressant de voir comment ils cherchent maintenant à camoufler leur manque de courage pour s'emparer du pays, en mettant à présent l'accent sur le danger qu'ils feraient ainsi courir à leurs femmes et à leurs enfants. C'est pourquoi ils ajoutent « Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, verset 4, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Nous assistons ici à une véritable mutinerie. La foule allait bientôt s'en prendre à eux. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Josué et Caleb nous donnent ici un remarquable exemple de courage. Ils étaient non seulement prêts à combattre ces géants, retranchés dans leur ville fortifiée, ils avaient aussi le courage de tenir tête à cette foule déchaînée. Combien de fois avons-nous résisté à la pression de la foule? Combien de fois nous sommes-nous plutôt contentés de ne rien dire? Je ne veux pas dire qu'il faut se lancer dans une dispute acerbe chaque fois qu'on a un différend avec quelqu'un, mais il est des circonstances où une réplique serait appropriée. Je me souviens de ce membre de notre congrégation qui suivait un cours à l'université. À un moment donné, la discussion porta sur ce qui devait constituer une famille. Un homme, une femme et deux enfants, cela constitue-t-il une famille? Toutes les mains se levèrent en signe d'approbation. Puis on posa la question. Un homme et une femme, et pas d'enfants, cela mérite-t-il le qualificatif de famille? À nouveau, toutes les mains se levèrent. Supposons à présent que vous ayez affaire à une femme, une veuve et son chien. Peut-on ici parler de famille? À nouveau, tous levèrent la main, exception faite de notre membre. Aussitôt, le professeur se tourna vers elle, disant « Ainsi, vous ne croyez pas que cela constituerait une famille? Voyez-vous ce qui se passe dans nos classes? C'est là ce que vos enfants doivent affronter. Et plus les années passent, plus la situation empire. » Mais poursuivons le récit. Pour répondre à la question qui lui était posée et pour justifier sa réponse, notre membre fit valoir qu'un chien n'est pas une personne. La notion de famille implique des personnes. Enfin, la question fut posée, deux hommes ou deux femmes, peut-on considérer cela comme une famille? À ce stade, tous les peureux levèrent la main, car ils ne voulaient pas se sentir à part. Oui, c'est aussi une famille, laissèrent-ils entendre en levant la main. Notre membre commençait maintenant à sentir la pression de tous ses yeux qui étaient rivés sur elle, car, contrairement à plusieurs, elle n'avait pas levé la main. À nouveau, le professeur se tourne vers elle, disant « Comment ça? À vos yeux, cela ne formerait pas une famille? » Et elle de répondre « Non, je ne le crois pas, car une famille implique qu'il y ait un homme et une femme. » Ainsi, deux hommes ou deux femmes ne répondent pas aux critères qui définissent une famille. Sur ce, s'adressant maintenant à l'ensemble de la classe, le professeur ajouta: Hélas, c'est là le genre de situation que nous allons devoir affronter dans notre société. Une société qui compte parmi elle des gens inflexibles, des catholiques comme cette femme qui est parmi nous. Notre membre eut beau dire qu'elle n'était pas catholique, il n'en reste pas moins qu'elle avait été mise sur la sellette. L'été dernier, j'ai parlé à un jeune homme en Belgique et lui demandais de me décrire comment cela se passait dans les classes quand de tels sujets sont mis à l'ordre du jour. Il me confirma alors que tous ceux qui osent afficher des opinions autres que la masse se font automatiquement regarder de travers et critiquer. S'il est vrai qu'en dehors de la classe, certains de vos amis vont vous dire qu'ils partagent votre opinion, une fois revenus en groupe, ils vont se laisser manipuler par leur professeur, peu importe ce qu'il enseignera. Vous savez, il faut du courage pour oser afficher un désaccord, pour ne pas lever la main alors que tous les autres le font. Voilà le monde où nous vivons. Donc Josué et Caleb étaient courageux, pas seulement parce qu'ils étaient de valeureux combattants, mais aussi parce qu'ils avaient osé braver la foule et qu'ils ne se sont pas laissés intimider par leur nombre. Examinons à présent les défis auxquels nous devons faire face dans notre monde qui évolue si rapidement. Nous allons, en vérité, au-devant d'un monde bizarre. Je suppose que vous avez entendu parler de ce projet de loi qui a été présenté par la ville de Charlotte et dont le but était de réglementer l'accès aux toilettes. Peut-être que vous êtes aussi conscient du fait que, pour sa part, le gouverneur de l'État de la Caroline du Nord était opposé à ce projet de loi. Je le sais car il se trouve que, par hasard, j'ai assisté à cette interview où on lui posait des questions à propos du dit projet. Il avait alors clairement affiché son désaccord, ajoutant même qu'il ne comprenait pas qu'on puisse même débattre la chose, tant elle lui répugnait. Voilà un homme qui a le courage de ses opinions. Je ne peux que l'applaudir. Cela dit, la jeune femme qui l'interviewait n'approuvait peut-être pas davantage le projet en question, mais pour ne pas perdre son emploi, elle devait se montrer offusquée par les paroles du gouverneur. Voyez-vous, pour être bien vue dans notre société, il ne suffit pas d'accepter toutes ces folies qu'elle nous propose. Il faudrait même les célébrer. J'ai été content d'apprendre que, grâce à l'action courageuse de notre gouverneur et du corps législatif de notre État, ce projet de loi n'a finalement pas été adopté, et il aura fallu moins d'une journée pour en arriver là. À présent, vous n'aurez plus à vous inquiéter si votre fille, en se rendant aux toilettes, soit abordée par un de ces individus qui prétend être une femme, alors qu'anatomiquement il est un homme, et qu'elle se fasse alors abuser. Peut-être que l'individu en question sera effectivement victime de confusion, mais combien d'autres pourraient vouloir profiter d'un pareil projet de loi pour commettre des abus sexuels? Il reste à espérer que nos législateurs ne reviendront pas sur leurs décisions à la suite de pressions venant d'entreprises locales. Ce ne serait pas la première fois que l'on assisterait à pareille volte-face. C'est que les entreprises sont toujours soucieuses de satisfaire aux lubies de leur clientèle. J'ai ici un document que je voudrais utiliser dans une prochaine émission télévisée. Une émission qui ne passera peut-être jamais en ondes, sauf sur notre propre site internet. Le titre en est Guidelines for Best Practices, ce que l'on pourrait traduire par lignes directrices pour s'assurer d'avoir les meilleures pratiques. Je sais que certains d'entre vous ont vu ce document. Il fut rendu public en Alberta vers la mi-janvier de cette année. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la province de l'Alberta, c'est là que se trouvent les villes de Calgary et d'Edmonton. C'est aussi là que font rage ces incendies qui dévastent la région de Fort McMurray, incendies qui pourraient avoir des conséquences bien plus sérieuses que les gens ne se l'imaginent, car Fort McMurray est au cœur de la région des sables bitumineux. C'est en fait le cœur de l'industrie pétrolière canadienne, laquelle a beaucoup contribué à soutenir leur économie. Jusqu'à ces dernières années, les gens de l'endroit avaient dû accepter de rouler quotidiennement 3 ou 4 heures pour se rendre à leur lieu de travail, car il n'y avait pas assez de logements à Fort McMurray. À présent, avec tous ces feux qui font rage, il n'y en aura peut-être plus du tout. Ainsi, même si le feu, en définitive, n'avait pas un impact sur les puits de sable bitumineux et les raffineries, il conduirait tout de même à la fermeture des opérations, car les gens seraient dorénavant contraints, chaque jour, de rouler de très longues distances jusqu'à leur lieu de travail. Ils sont donc confrontés à un très grave problème là-bas. J'aimerais maintenant lire quelques extraits de cette publication qui nous vient du gouvernement de l'Alberta. On peut d'ailleurs se demander si les problèmes qui frappent l'Alberta en ce moment ne sont pas une conséquence de directives du genre de celles que nous allons examiner maintenant. Ces directives ont été émises vers la mi-janvier et elles doivent être mises en application dès la fin de mars, et cela dans toutes les écoles de l'Alberta, qu'elles soient publiques, privées ou paroissiales. Toutes les écoles devront se conformer à ces directives. Dans le document mentionné, on lit: les directions des établissements scolaires doivent se doter de politiques, de règlements et de procédures qui reflètent les politiques et la législation provinciale. Il est particulièrement important et de la responsabilité de ces établissements scolaires qu'ils respectent les droits des étudiants et du personnel qui s'identifient en tant que lesbiennes, gays, trans, ici on nous réfère à une note en bas de page, bisexuels, ceux qui se questionnent à propos de ce qu'ils sont, et toutes ces autres catégories pour lesquelles le traducteur n'a pas pu trouver un nom. Si l'on consulte à présent la note donnée en bas de page à propos du terme trans, il y est précisé que c'est à dessein qu'on a utilisé ce terme afin d'être flexible et de pouvoir ainsi regrouper des tendances qui sont en constante évolution. On parle ici d'individus qui se déclarent appartenir à un sexe qui n'est pas nécessairement celui qui a été identifié à la naissance et dont le comportement peut refléter cette ambivalence. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas imaginer prochainement? On ne peut certes pas les accuser de manquer d'imagination. Cela me fait penser à cette lettre que Dr. Meredith vient d'envoyer à nos co-ouvriers, lettre dans laquelle il parle de sologamie. C'est quand une personne se marie elle-même. Nous nous sommes un peu amusés au bureau en apprenant cette nouvelle, excepté que ce n'est pas si drôle quand on y réfléchit. Il paraît que cette femme, qui avait l'intention de s'épouser elle-même, avait pu rassembler 40 amis pour la circonstance, probablement des personnes qui étaient curieuses de voir comment cela allait se passer. Je me demande ce qu'elle fera si, un jour, elle venait à décider de demander le divorce. Et puis, si un jour elle rencontrait quelqu'un avec qui elle voudrait se marier, lui faudrait-il alors se divorcer d'elle-même pour pouvoir le faire? Tout cela n'a aucun sens. Mais revenons au document qui a été soumis au directeur d'école en Alberta. Et n'oublions pas qu'ils sont tenus d'appliquer ces directives dans leurs établissements respectifs. Il y est dit entre autres, mais je trouve cela inquiétant, il revient à chaque individu de choisir à quelle orientation sexuelle, à quel genre, il veut appartenir et comment il comptera alors se comporter. Notez cela, c'est en fonction de ce qu'il va s'imaginer. Oubliez ce que les parents pensent. De toute façon, ils n'ont même pas le droit d'être informés de ce qui se passe dans les écoles. C'est ahurissant, débile. Ainsi, lorsqu'un individu souffre manifestement d'un problème d'identité, quand il se voit en tant que fille, alors que, du point de vue anatomique, il a tout d'un garçon, nous devrions l'encourager dans ce sens? On devrait donc le garder dans la confusion, au lieu de l'aider à revenir à lui? Appliquons ce raisonnement à une personne qui souffre d'anorexie. C'est exactement la même problématique. Curieusement, dans ce cas particulier, les psychologues s'accordent à dire qu'il ne faut pas encourager un tel comportement. Imaginez en effet qu'une personne soit maigre comme un clou, mais que dans sa tête, elle se voit grassette et se sent alors obligée de perdre du poids. Allons-nous alors l'encourager en ce sens? Dans ce cas, les gens vont être unanimes. Cependant, dans les écoles, les choses se passeront différemment, surtout si certains professeurs se montraient zélés pour appliquer ces nouvelles directives du ministère. Ainsi, prenons le cas de Johnny, qui viendrait à penser qu'il est Jane à présent. Il aurait alors le droit, lui-même, de faire changer son appartenance sexuelle et d'utiliser alors les toilettes et les vestiaires des filles. Inconcevable? Non, car c'est ce qui devrait découler d'une telle politique. C'est dingue. Cela dit, ne croyez pas que cette vague de folie se limite à Charlotte ou à l'Alberta. Au Royaume-Uni, ce n'est pas mieux. Le même vent de folie semble souffler là-bas. Pouvez-vous concevoir un monde peuplé d'ados qui ne serait ni garçon ni fille, mais qui réunirait les trois genres simultanément? Il serait donc mâle, femelle et androgyne, tout en un. Dieu nous demande de nous montrer forts dans ce monde. Voyons Josué le chapitre 1 et les versets 5 à 9. Un passage des Écritures auquel on pense spontanément lorsqu'il est question de courage. Josué chapitre 1 verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est ce que Josué se fait dire, lui qui a été nommé en charge de la nation après la mort de Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu nous fait la même promesse. Si nous lui restons fidèles, il restera proche de nous. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Pourquoi? Pourquoi lui demande-t-il de se montrer fort et courageux? Est-ce uniquement afin d'être en mesure d'affronter quelques géants? Ne serait-ce pas également parce qu'il aurait parfois à rester ferme face à la pression de l'opinion publique? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Encore une fois, cette promesse s'adresse à Josué. Mais Comme Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il sera aussi avec nous, en tant qu'association, en tant que groupe et en tant que famille. Il restera avec nous si nous lui restons fidèles. Nous approchons d'une époque qui ne sera pas facile. Vous savez, le gouvernement peut nous soumettre à d'intenses pressions. Il pourrait, par exemple, nous enlever notre droit à un crédit d'impôt pour nos dîmes et nos offrandes. C'est d'ailleurs la situation que vivent nos frères au Royaume-Uni et dans quantité d'autres parties du monde. Pour nous qui n'y sommes pas habitués, ce serait là un coup dur, n'est-ce pas? Oui, c'est une chose qui pourrait se produire un jour. Le gouvernement pourrait aussi s'en prendre à certains d'entre nous et les soumettre à toutes sortes de harcèlements, uniquement pour rendre notre vie misérable. On pourrait aussi nous enlever nos enfants. Je ne veux pas vous donner la frousse, mais ce sont là des choses qui pourraient arriver. Un tas de choses pourraient arriver avant que tout cela ne se termine. Alors que jadis, il y a 40 ou 50 ans, nous n'aurions pas pensé à de telles choses. À présent, au train où vont les choses, il nous est d'ores et déjà possible d'envisager ce qui pourrait les provoquer. Aux États-Unis, certains États avaient passé des lois dans le but de protéger certaines entreprises, pour ensuite faire marche arrière en raison des pressions financières qui en résultèrent pour elles. C'est que, voyez-vous, en tant que gouverneur d'un État, si diverses compagnies décident de partir, par exemple, si diverses organisations de loisirs s'en vont se relocaliser ailleurs, alors vous allez immanquablement avoir des gens qui en souffriront. Leur chiffre d'affaires va chuter. Certains emplois seront perdus. En pareil cas, ceux qui approuvaient certaines politiques auront tôt fait de les rejeter. Pour nous, qui sommes dans l'Église, il ne saurait être question de changer d'allégeance. Nous devons être en mesure de faire la part des choses et de nous en tenir à nos promesses. Ce qui est vrai doit le rester, et pareillement pour ce qui est faux. Si nous devions un jour nous éloigner de la vérité, Dieu cesserait alors d'être avec nous. Mais je ne crois pas que ceci se produira, car j'ai confiance que le peuple de Dieu saura faire preuve de courage, qu'il restera fidèle à des principes et qu'il se tiendra debout. Veuillez maintenant vous reporter à Ézéchiel le chapitre 2. Il est intéressant de noter que lorsque les gens battent en retraite, c'est alors qu'ils se font étendre. À l'inverse, lorsqu'ils affrontent ceux qui cherchent à les intimider, et je veux ici parler de ceux qui s'appuient sur les leviers que leur donnent ces notions de rectitude politique, alors ils courent des chances de l'emporter sur eux. Ézéchiel 2, verset 1. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. » Verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. J'aimerais à présent attirer votre attention sur un certain article de Dr. Meredith. Il se trouve dans notre magazine Le Monde de demain de juillet-août 2016, celui qui a pour page couverture Une photo qui illustre la grande débâcle. Entre parenthèses, un excellent article que nous devons à M. Rod McNair. Dans son article intitulé « Êtes-vous disposé à changer ?», Dr. Meredith montre que, même si les gens reconnaissent que nous leur présentons la vérité, ils avouent néanmoins qu'ils ne se sentent pas prêts à changer. Cela me fait penser à cette personne qui vint à l'une de nos conférences publiques que nous donnons périodiquement à l'intention de nos lecteurs et téléspectateurs. Il était assis dans le fond de la salle à ma droite. Or, à un moment donné, alors que je venais tout juste d'expliquer à mon auditoire à quel point Noël est une célébration d'origine païenne, le voilà qui m'interrompt bruyamment en s'exclamant « Quoi ?» Il ne cherchait pas à interrompre. Il était tout simplement abasourdi. Il vint me trouver après la conférence et je lui indiquai plusieurs références pour qu'il puisse vérifier cela par lui-même. Il m'a rappelé plus tard et je lui ai rendu visite. Il me confia alors, « Vous savez, j'ai vérifié et tout ce que vous disiez s'est avéré exact. Noël est bien d'origine païenne. » Nous nous sommes ensuite revus à une ou deux reprises, mais un beau jour, il finit par me dire, « Je sais que ce que votre Église enseigne est la vérité, mais je ne peux pas me résigner à abandonner tous ces plaisirs que la vie m'apporte. Bref, je ne suis pas prêt à changer. » Vous savez, frères et sœurs, un jour ils se souviendront qu'ils ont été avertis. De même, ce qu'on observe à présent dans notre société, l'Église nous l'avait annoncé il y a maintenant des décennies. Ceux d'entre nous qui ont un certain âge n'avaient pas connu de telles situations jadis. Encore une fois, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 5, Dieu dit « Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. » Puis au verset 6, il ajoute « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. » C'est ce que l'on aurait pu dire à ce jeune homme qui s'était fait remarquer en classe parce qu'il osait avoir une opinion différente. Et vous savez, lorsqu'on a 15 ans, il est particulièrement difficile d'affronter la pression de ses pairs. Compatissons avec nos jeunes qui doivent faire face à de telles situations. Ils ont certainement besoin de sagesse. Et il faut espérer qu'ils resteront fermes lorsqu'ils seront mis sur la sellette. On ne leur demande pas de s'exposer inutilement, mais, à l'inverse, ils ne devraient pas non plus se taire lorsqu'on veut leur imposer des choses que Dieu désapprouve. Donc, à nouveau, verset 6, « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Et le prophète continue de blâmer la maison d'Israël, pas les Juifs, pour leur attitude rebelle. Dans Actes 28, l'apôtre Paul se rend à Rome, et au verset 15, il dit, Actes 28, verset 15, « De Rome vinrent à notre rencontre, jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. » Par qui Paul fut-il encouragé? Par les frères. Tous travaillaient d'un commun accord. Le christianisme n'est pas pour les peureux. Il faut reconnaître que nous avons connu une longue période de paix. Mais ceci tire maintenant à sa fin. Tous ceux qui ont des yeux pour voir s'en rendent compte. Ainsi, le véritable christianisme est pour les téméraires et les courageux. Il y a tellement d'exemples de courage dans la Bible qu'on ne sait pas par où commencer. Voyons-en quelques-uns. Commençons par Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. Je suis d'avis qu'on pourrait tout aussi bien l'appeler le chapitre dédié aux courageux. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Croyons-nous cela, frères et sœurs? Nous devrions, et j'espère qu'il en est ainsi pour vous. Notez ce qui suit. D'autres furent livrés aux tourments, Dieu va en effet permettre que certaines choses arrivent à son peuple au temps de la fin, et celles-ci ne seront pas plaisantes. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Pourquoi? Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ceux-ci voient le plan d'ensemble. Ils savent où ils se situent dans ce plan. Ils n'ont pas peur de leur statut. Ils ont une foi affermie et ils savent ce que l'avenir leur réserve. Ils vont obéir à Dieu sans s'inquiéter des conséquences, tout en ayant foi en la délivrance qu'il leur accordera. En cela, ils se comportent à la manière de ces trois jeunes Hébreux, du nom de Shadrach, Meshach et Abednego, lesquels avaient répondu à Nebuchadnezzar: Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Revenons à Hébreux 11, où nous lisions le verset 35. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Donc, si certains d'entre nous se faisaient emprisonner, nous serions en bonne compagnie. Il m'est arrivé un jour de donner un sermon où je mentionnais toutes ces personnes qui avaient fait de la prison. Je ne me souviens plus de leur nombre, mais il est étonnant de voir combien de serviteurs de Dieu ont dû passer du temps en prison. Verset 37. Ils furent lapidés, sciés, c'est atroce. Je me suis souvent demandé dans quel sens. Il est vrai que cela n'a pas d'importance, le résultat est le même. L'idée me paraît révoltante. Être scié en deux. Non merci. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Peut-être qu'ils auront été dépossédés de leur maison à la suite d'une crise financière, qui sait? De fait, aux États-Unis, il y a en ce moment même certaines personnes qui sont soumises à de graves problèmes financiers pour avoir refusé de célébrer des mariages entre des personnes du même sexe. Cela n'est pas connu du grand public, mais j'ai connaissance d'un cas en particulier, celui d'une femme de l'État de Washington. Elle possédait une boutique florale. Maintes fois, elle avait accordé du travail à un jeune homme qui l'assistait dans son commerce. Un jour, ce dernier lui fit part de son intention de se marier, et il fut alors tout naturel pour elle de vouloir lui préparer un beau bouquet pour la circonstance. Cependant, en apprenant que ce jeune homme allait épouser un autre homme, elle se sentit obligée de lui dire qu'à son grand regret, elle ne pouvait pas donner suite à sa première idée, la situation qui se présentait étant contraire à ses principes. Finalement, c'est celui qui devait se faire épouser qui intenta alors une poursuite en justice contre elle. Curieusement, lorsqu'il fut saisi de l'affaire, le procureur général de l'État de Washington tint personnellement à se mêler de l'affaire, même si, en principe, cela n'était pas de son ressort. À présent, la pauvre femme doit se défendre en cour. Il y a des gens qui manifestent devant sa boutique. Son commerce en est lourdement affecté et toute sa vie a été bouleversée. Nous avons entendu divers témoignages à propos de cas semblables lorsque nous avons récemment participé à la Convention nationale des radiodiffuseurs religieux. Cette femme n'était donc pas la seule à subir des persécutions de ce type. Comme nous l'avons lu précédemment dans Hébreux 11, verset 38, elle fait partie de ceux dont il est dit « eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre ». Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il est ensuite question de Christ, qui a établi la norme pour nous, en souffrant la croix et en méprisant l'ignominie, comme on peut le lire dans Hébreux 12, verset 2. Puis au verset 3, Hébreux 12, verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Notez le terme découragé. Nous ne devons pas nous laisser envahir par le découragement. Le monde est en rapide évolution et il faudrait être aveugle pour ne pas voir où cela va mener. Le temps est proche où notre courage va être durement éprouvé. Comme le dit le psaume 31, au verset 24 et 25, et nous terminons avec cette citation, Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel.